Alors ce matin, j'aimerais prendre le livre d'Ézéchiel. Je ne sais pas si vous avez lu récemment le livre d'Ézéchiel. C'est pas forcément un livre, enfin moi c'est pas mon livre préféré, hein, je sais pas vous, mais si on se laisse et on s'écoute et on dit « bon alors qu'est-ce que je vais lire ?» on va glisser vers un autre livre que le livre d'Ézéchiel, hein, naturellement. Mais avant de le lire, en tout cas de lire le texte sur lequel j'aimerais que l'on se penche, j'aimerais replacer un peu Ézéchiel dans le contexte. Ça va être un petit peu fastidieux pour les plus jeunes là, hein, mais il faut l'expliquer quand même. Donc on savait qu'Israël a été infidèle à l'Éternel. Ils étaient censés être une lumière qui rayonne par la pratique de la loi de Moïse, mais c'est le contraire qui arriva. Ils ont beaucoup péché, énormément péché, si bien que premier châtiment, déportation des 10 tribus du nord, donc en Assyrie, les Assyriens qui viennent et qui commencent à déporter. Et puis, à peu près 150 ans plus tard, c'est le royaume de Juda, donc les tribus du bas, qui sont châtiées par vagues successives et qui sont déportées à Babylone. Donc, Ézéchiel est l'un de ces prophètes qui a été déporté à Babylone avec Daniel. Hein. D'ailleurs, Ézéchiel et Daniel avaient probablement le même âge, ils étaient de la même génération. Et il y avait un autre prophète qui était contemporain, c'était Jérémie, qui lui était plus vieux. Mais Jérémie, en fait, n'a pas été déporté. Et Jérémie, lui, devait prévenir en disant « Attention, si vous continuez dans cette voie, voilà ce qui va vous arriver. Repentez-vous, ne faites pas, acceptez après le joug de Nebuchadnezzar, il va dire. » Tandis que Ézéchiel, lui, il devait prêcher « Cessez de vous appuyer sur l'Égypte. » Et puis une fois qu'il a été déporté, qu'il était parti avec les exilés, il devait dire « Attention, Jérusalem sera détruite, repentez-vous » parce qu'en fait les Israélites n'arrivaient pas à croire que Jérusalem puisse être anéantie. Pour eux, bon ben ok, on est déporté, mais on va revenir et tout va aller bien, et ils ne se repentaient pas dans leur cœur. Alors Ézéchiel leur disait « Mais repentez-vous, pliez le genou devant l'Éternel, pleurez sur vos péchés, il est temps de se repentir ». Le livre d'Ézéchiel a 48 chapitres et on trouve 49 mentions de ce verset, enfin ce début qui dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». 49 fois « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Et puis, il donnait la prophétie. Imaginez l'autorité qu'il y a dans ce livre, et c'est aussi l'autorité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre livre où Dieu parle de cette manière, où la parole de l'Éternel est adressée au travers d'hommes qui nous l'ont transmise. Et ici, Dieu choisit Ézéchiel, non pas pour parler aux nations alentours, même si Ézéchiel a prophétisé sur de nombreuses nations, donc sur Ammon, Moab, Édom, Tyr, Sidon, les Philistins, l'Égypte. Il a prophétisé sur ces nations, comme quoi elles seraient châtiées, mais il a surtout prophétisé sur Juda, il a parlé sur Juda. Et j'aimerais qu'on prenne un premier passage pour introduire, c'est Ézéchiel 3, versets 4 et 5. « Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » Ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Et regardez le verset 11 en dessous, même chapitre. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'était pas facile pour Ézéchiel, hein. C'était vraiment pas facile. Il devait aller vers son peuple et il devait les prévenir, les avertir, leur dire les paroles qui venaient de Dieu, parfois des paroles qui étaient dures, hein, qui étaient très dures. Et est-ce que c'est pas là aussi notre défi ? Nous aussi, hein, il faut qu'on parle, il faut qu'on avertisse, hein, il faut qu'on annonce Christ à ceux qui nous entourent, aux nôtres, à notre famille, à nos amis, à nos collègues, à ceux qui sont tout autour de nous. Et c'est pas facile. Parfois, c'est plus facile de se dire, je vais aller annoncer à l'étranger, à des gens que je connais pas, plutôt que d'annoncer à ceux que je connais, avec qui j'entretiens des relations. Et on s'installe aussi. On peut petit à petit s'installer dans une relation où ça va, bon, tout va bien, il n'y a pas de tension, voilà, on est bien, et puis ben voilà, on fait notre bonhomme de chemin, et on n'annonce plus, et on ne parle pas, parce que ben voilà, on se satisfait de cette situation. Alors c'est vrai, Jésus a dit « Nul n'est prophète en sa patrie ». Donc ben, c'est pas la peine, hein. Je dis rien, je dis plus rien de toute façon, parce que nul n'est prophète en sa patrie. Alors c'est vrai, Jésus a dit cela. Il a dit cela parce que, eh bien, il savait, il voyait Israël, hein, qui le rejetait, qui ne voulait pas. Mais le Seigneur a aussi parlé et il a glané des cœurs qui étaient repentants, des cœurs qui étaient bien disposés. Et nous aussi, on est appelés à glaner, hein, autour de nous des cœurs qui sont bien disposés. Et nous sommes parfois les seuls par qui ils entendront. Donc il ne faut pas oublier d'ouvrir la bouche, comme Ézéchiel. Un peu plus loin, quand on avance dans son livre, on voit que Dieu dit à Ézéchiel, tu es une sentinelle. Tu es une sentinelle. Peut-être qu'il y avait des réticences intérieures, un frein, une peur, des angoisses, hein. Il se disait, mais comment je vais pouvoir parler à ce peuple qui refuse d'entendre tes paroles? Et Dieu lui dit, mais t'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu es une sentinelle et tu es responsable. Si tu t'endors, tu es responsable. Si tu te tais, tu es responsable. Si tu parles, alors eh bien, tu es libre. Tu es libre et la responsabilité retombe sur eux maintenant. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Ils ont entendu. Et donc, c'est voilà, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça n'a pas d'importance. Mais toi, ouvre la bouche et parle. Et ça nous fait réfléchir par rapport à nous-mêmes. On n'est pas né dans une famille par hasard. On n'habite pas dans un endroit par hasard. On n'a pas des gens autour de nous par hasard. On sait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc Dieu veut, Dieu souhaite, hein, Dieu a voulu que les choses soient comme cela. Et il a dit à nous qui sommes ses enfants, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien sûr, on n'est pas comme les prophètes qui criaient même à des oreilles qui ne voulaient pas entendre. Dieu ne nous demande pas de faire ça. Il dit dans les Écritures qu'il faut qu'on soit toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Se défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Mais ça implique qu'ils savent l'espérance qui est en nous. Ils l'entendent, ils le voient. Alors, eh bien, il faut que ça s'exprime. Un témoin, ben voilà, il est témoin. Sinon, il n'est pas témoin. S'il ne dit rien, s'il ne fait rien, il n'est pas témoin. Un témoin qui est complètement silencieux, ce n'est pas un témoin. Ensuite, quand on avance encore dans le livre, Ézéchiel nous montre l'exemple d'un homme qui s'est vraiment voué à la tâche que le Seigneur lui demandait. Il a fait ce que Dieu lui demandait, entièrement, du début jusqu'à la fin. Et l'Éternel va lui demander toute une série de gestes, d'actions, d'attitudes, de situations qu'il va devoir vivre. Par exemple, Dieu va lui dire « Enferme-toi dans ta maison ». Alors il va se barricader, s'enfermer dans sa maison, les Juifs dehors se demander « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Ensuite, il va lui dire « Mais couche-toi sur le côté gauche ». Et puis après, couche-toi sur le côté droit. Et pas pendant 2 heures, hein. En fait, pendant des jours. On imagine tous les jours, eh bien, il sortait, il s'allongeait, et les Juifs le voyaient pendant des heures allongé sur un côté ou sur un autre. Ça a duré plus d'un an. Plus d'un an. Il lui a dit aussi, tu devras te rationner. Manger une petite quantité de nourriture, pas plus. Faire un régime ensemble. Hein, tu feras un régime. Parce que Dieu lui demandait. Il va aussi devoir changer son aspect extérieur. Dieu va lui dire, rase-toi, coupe-toi les cheveux, coupe-toi la barbe. Il va devoir frapper de la main et du pied comme un signe pour Israël. Ensuite, il va devoir prendre ses affaires, partir, là encore, comme un signe, montrer quelque chose à Israël. C'était une famille de rebelles. Bon, plein de choses comme ça, mais on peut se demander jusqu'où moi je suis prêt à aller si le Seigneur me demande quelque chose. On voit tout ce qu'Ézéchiel a fait. Dieu lui demandait, ben il obéissait. Mais moi, si Dieu me demande, si Dieu vous demande quelque chose, est-ce que vous êtes prêt à dire, ben oui Seigneur, tu le demandes, je le fais. J'obéis. Parfois, Dieu attend de nous un petit sacrifice, un petit renoncement. Le renoncement à un plaisir, le renoncement à une addiction. Est-ce qu'on a suffisamment d'amour pour le Seigneur pour dire « Oui, Seigneur, tu le demandes, eh bien, je le fais, je le fais. » Et c'est vrai qu'on peut être parfois des chrétiens qui sont bien faibles dans la foi, faibles dans la foi. C'est difficile de céder, c'est difficile d'offrir, de sacrifier quelque chose au Seigneur. Pourquoi ? Parce que le monde, il nous habitue au confort. On est habitué au confort. On est habitué à l'exclusion de tout sacrifice, de toute souffrance. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Hein. Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Certains traitent durement leur corps parce qu'ils ne veulent pas prendre un gramme de trop. Ils ont une motivation. Hein. D'autres, c'est des sportifs. Ils ont une compétition, voilà, ils traitent durement leur corps. Et Paul traitait durement son corps parce qu'il ne voulait pas somnoler, s'endormir, devenir en fait un fainéant de la foi. Il voulait être alerte et voilà, toujours sur la brèche. Et dans Ézéchiel, Dieu dit, mais je cherche un homme. Je cherche un homme qui est sur la brèche, voilà, qui se tient près de moi. Et Ézéchiel a fait ce qu'il lui demandait, il est allé jusqu'au bout. À noter aussi qu'il va subir un deuil. Et là, ça va être vraiment très douloureux, une épreuve vraiment très dure. Et Dieu l'avait prévenu. Il lui a dit, « Fils de l'homme, voici je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Oh » Déchirure dans le cœur. Ézéchiel était probablement pas très vieux. Sa femme était probablement une jeune femme, plus jeune que lui. Et voilà qu'il la perd dans la volonté de Dieu. Le sacrifice était immense. Mais Ézéchiel reste fidèle. Je viens de lire je ne sais plus si c'était hier soir ou ce matin, un encart dans un journal sur une femme de pasteur qui s'est fait tirer chez elle par un illuminé aux États-Unis. Et donc, elle était enceinte et elle a déjà un premier enfant. Voilà. Que Dieu soutienne ce frère qui est en deuil. Mais là, eh bien, Ézéchiel a vécu cela. Il a perdu celle qui faisait les délices de ses yeux. Et il est resté digne. Il est resté fidèle à son Dieu. Il a continué à faire la volonté de Dieu, à marcher avec le Seigneur. Et Dieu nous appelle aussi à traverser des souffrances et il nous dit, mais sois fidèle, persévère et confiance. Et puis Ézéchiel va aussi avoir toute une série de visions. Vous vous souvenez peut-être de ces visions. Hein? La vision d'une vigne en feu. La vigne, c'est Israël. Donc, c'est le jugement sur Israël. Mais aussi une vision d'espérance, une vallée d'ossements, et puis les ossements reprennent vie. Et puis aussi la vision du temple, vision magnifique du temple et de la gloire future. Mais j'arrive maintenant au chapitre que j'aimerais qu'on lise ensemble, c'est Ézéchiel chapitre 8. Et on va lire tout le chapitre 8. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la maison du Seigneur de l'Éternel, la main du Seigneur, pardon, de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font ? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais. Et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme ? Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Alors c'est un chapitre qui permet de comprendre les raisons de la déportation justement à Babylone et du jugement qui sont tombés sur Juda. Et Ézéchiel commence par avoir une vision, il semble que c'est Christ en fait, hein, vision de Christ, et il est soudain enlevé comme par une main qui le prend par les cheveux, et il se retrouve à Jérusalem. Et il est dans le temple de Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, c'est-à-dire au nord. Donc il y a les murailles qui font le tour, et puis encore comme cela, et donc il est à l'intérieur, à une porte qui donne sur le parvis du temple. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une idole païenne. Alors, elle n'est pas nommée, on n'a pas le nom de cette idole, simplement elle est décrite comme l'idole de la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'elle excite la jalousie de l'Éternel. Et ici, c'est un adultère spirituel qui est en train de se commettre. Et là, on n'est pas sur les hauts lieux. On n'est pas loin de Jérusalem. Non, on est dans le temple de Jérusalem. Carrément dans le temple de Jérusalem, là où c'est le lieu où on adore Dieu. On adore le Créateur, le Tout-Puissant. Et là, il y a une idole qui trône au milieu, là, sur le bord du temple. L'apôtre Jean nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et on sait que la Bible, elle est toujours actuelle. Le décor a changé, tout a changé, mais les menaces qui sont au-dessus de nous et les péchés sont toujours les mêmes. Ça n'a vraiment pas changé. Les idoles, elles sont toujours là, elles sont tout autour de nous. Et tout ce qui prend la place du Seigneur, c'est une idole. Tout ce qui prend la place du Seigneur dans mon cœur, c'est une idole. Tout ce qui m'amène à ne plus être capable d'obéir au Seigneur quand il me demande quelque chose, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend de la place, c'est une idole. Si devant un commandement, Dieu nous dit quelque chose, on hésite et on choisit notre propre volonté, mais on a une idole. Il y a une idole quelque part. Une idole qui prend plus de place que Dieu dans notre cœur. Gardez-vous des idoles. Du temps d'Ézéchiel, il y avait un temple qui était physique. Voilà, on le voyait. Mais aujourd'hui, où est le temple ? Le temple, c'est nous. Nous sommes le temple. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nos cœurs, nos corps sont un temple pour le Seigneur. Au verset 4, nous lisons « Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. » Donc la gloire du Dieu d'Israël était là, sur le temple, elle reposait sur le temple. Nous, la gloire, elle repose en nous. L'Esprit est en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Imaginez une idole, l'idole de la jalousie dans son temple. Imaginez l'idole dans mon cœur, l'idole dans notre cœur, qui cohabite avec l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu. Et je l'accepte, et elle est là, je la conserve. Une habitude coupable, une désobéissance qui nous rend sourds à la voix de Dieu. L'Esprit parle, mais on refuse d'écouter. On suit son idole. Mettre une idole là où était le temple, c'était une place de choix pour l'abomination. D'ailleurs, il le dit, vois les abominations qu'ils commettent. Laisser une idole dans notre cœur et la caresser, c'est une abomination. Pour le Seigneur, c'est une abomination. Mais tu verras encore d'autres abominations. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçais la muraille. Et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais, je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur les murailles tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, « Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ? Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Donc maintenant, il est transporté à côté de l'entrée du parvis. Ici, c'est le parvis extérieur. Et là, il semble qu'il y ait une chambre dans la muraille. Et dans cette chambre, dans la muraille, il voit des figures, des images d'idoles qui sont peintes sur la muraille. Et il y a comme une cérémonie. On est en train de rendre un culte à ces idoles. Alors il y a 70 anciens, ils ont un encensoir à la main, donc ils sont vraiment en train de rendre un culte. La pièce est remplie de cette fumée. Les 70, ça fait penser aux 70 dans le désert, hein, qui devaient aider Moïse dans sa tâche, qui était finalement une représentation du peuple. Et Dieu dit, vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. L'abomination étant de rendre un culte à ces images, à ces idoles. Et c'est certain que Dieu ne peut pas accepter qu'on rende un culte aux images et aux idoles, aux figures. Et il y a une forme de culte, de dévotion, d'adoration, quand ça prend tout notre être, quand ça prend toute notre vie, quand l'image devient plus importante que la réalité. L'image devient plus importante que la réalité. Et c'est curieux de voir que 2500 ans plus tard, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui cultive l'image. On a un culte de l'image très très fort, très fort. C'est plus des images peintes, fixes, c'est des images animées. Et si vous regardez l'histoire du monde depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une lutte, un combat, un vrai combat, entre le culte des images et le culte du vrai Dieu, l'adoration du vrai Dieu. Dieu voulait qu'on l'aime, qu'on l'adore en esprit et qu'on le connaisse par les Écritures, par la Bible. Mais les hommes ont toujours voulu au contraire se faire des images. C'est triste. Par exemple, en descendant du mont Sinaï, Moïse descend avec les tables de la loi à lire. Les tables à lire. Il n'est pas descendu avec un iPad, avec un écran plat et des images. Il est descendu avec des tables à lire. Et quand il arrive en bas, qu'est-ce qu'il voit ? Ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont fait une image. En fait, la culture des images de l'Égypte les avait tellement imprégnés qu'ils ne pouvaient pas vivre sans une image. Il fallait une image. Fais-nous un dieu. Fais-nous une représentation. Il faut qu'on voit avec nos yeux. Le commandement était clair pourtant. Hein. Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'était écrit sur les tables. Il le rapportait. Et il va toujours exister dans l'histoire d'Israël cette lutte entre l'écrit, la Bible, et puis l'image ou les statues des faux dieux. À Babylone, par exemple, qu'est-ce que va faire Nebuchadnezzar ? Il va se faire une grande statue, une image. Et il va inviter tout le monde à venir l'adorer. Donc il y a l'image, ça éclate, hein, qu'on le voit bien. Et puis il n'y avait pas que l'image, il y avait le son. Il y avait les tambourins et on sonnait, il y avait du bruit. Il y avait une ambiance en fait. Il faut une ambiance, parce que l'homme a besoin de ça, il recherche ça. Il faut qu'on l'attire par ces choses-là. L'homme est très réceptif à l'image et au son. Il faut que ça touche nos sens, il faut que ça nous séduise, que ce soit là. Si on avance dans le temps maintenant, on prend l'époque du Nouveau Testament. Paul a dû lutter à Athènes aussi avec toutes ces images, toutes ces faux dieux hein, qui étaient sur des stèles tout autour, les dieux, les déesses. Dans la culture romaine, c'est pareil, les images, beaucoup. Et puis les images animées, c'était quoi ? C'était les théâtres, c'était le Colisée, c'était les gladiateurs. Il fallait qu'on mime, qu'on voit, que ce soit réel. Mais Paul n'envoyait pas des tickets gratuits pour le Colisée. Il envoyait des épîtres à lire. Il envoyait la parole de Dieu. C'était ça qui était important, la parole de Dieu. Et Dieu veut nous parler, pas par l'image, mais par l'écrit, par ce qui est écrit, les paroles qui viennent de lui. Pourquoi ? Parce que Dieu fait appel à notre intelligence. Il ne fait pas appel à nos sens. Dieu veut parler plus à notre esprit qu'à notre âme. Il veut toucher notre cœur. Alors, les sens sont aussi importants, mais Dieu veut d'abord toucher notre intelligence, d'abord toucher notre esprit. Puis après, les sens suivent, hein, et l'enthousiasme vient, et la joie vient, et tout ça, c'est après. Mais d'abord, le cœur. On avance encore quelques siècles. Le catholicisme, qu'est-ce qu'il a fait ? Les supports matériels de la foi. C'est quoi ? On essaye de rendre physique la foi, alors que la foi, c'est immatériel. Et qu'est-ce qu'on fait ? Le culte des reliques. Il faut qu'on touche. Il faut qu'on touche un bois de la croix, il faut qu'on touche la couronne d'épines, le linge, le suaire. Il faut toucher. Il faut une image, il faut quelque chose de physique, il faut du visuel. On va faire la croix, Jésus représenté sur la croix. On va faire Dieu le Père comme un vieil homme souriant, barbu, Marie, l'enfant Jésus, etc. Et en fait, c'est l'image du paganisme qui vient infecter le christianisme. L'image est entrée, malheureusement, dans le christianisme. Dieu avait dit, tu ne te feras pas d'image, mais rien n'y fait. Et c'est toujours aux dépens des écrits bibliques. Parce qu'on donne des images et on fait la Bible en latin. Et on empêche le peuple d'avoir accès à la parole de Dieu. Ne lisez plus. Regardez. Et ce n'est qu'après, à la réforme, où Dieu a permis dans sa grâce la découverte de l'imprimerie et puis les traductions. Traductions dans les langues du peuple, pour que le peuple puisse comprendre. Après les ténèbres, voilà. La lumière fut la lumière des Écritures, de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, la réforme, elle est loin. Elle est loin derrière. On est à 500 ans. Et nous sommes une société de l'image. Nous aimons les images. Et le monde réclame des images animées. Il faut des écrans, il faut de la haute définition. Il faut du son, il faut que ça brille, il faut que ça flash, il faut que ça titille nos sens. C'est ça qu'on aime. La dernière fois, je marchais dans la rue le soir, c'était déjà la nuit, et quelqu'un n'avait pas fermé les volets de son appartement, et je vois un écran majestueux qui faisait presque tout le mur, et il n'y avait que l'écran d'allumé, donc c'était ces images qui scintillaient et éclairaient toute la pièce. Et en regardant sur la droite, je vois donc un canapé avec une personne assise devant l'écran, mais avec un autre écran sur les genoux, le portable est en train de surfer sur Internet. Un écran ne suffit plus, il en faut deux maintenant. Et puis trois avec le téléphone après, des écrans. Quand vous êtes aujourd'hui dans une salle d'attente, dans la rue, un arrêt de bus, vous voyez, hein, bon, tout le monde est comme ça maintenant. On va bientôt être tous tordus, hein. Oui, ils vont être tous tordus à cause de ces portables. En fait, on est une société droguée de l'image. On est des drogués de l'image. Et s'il n'y a pas d'image et que du texte, ça ne nous plaît pas. Et même nous, hein, on peut être petit à petit en se disant ah ben, c'est mieux de donner un DVD plutôt que de donner un traité. C'est une drogue. C'est une drogue. L'écran est une drogue. Et on est des drogués de l'image. Cette société est droguée de l'image. Il faut que ça bouge, il faut que ça brille, il faut que ça scintille. Il faut une image animée. C'est intéressant, tiens. L'antéchrist. Ben, il va bien en profiter. Hein? Parce qu'il va vouloir qu'on l'adore par l'image animée. Et là, on est en train de vouloir que toute l'Afrique puisse avoir accès à la technologie aussi. Hein? Pour ça. Dans Romains, il est écrit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et donc, on délaisse la gloire de Dieu pour des images qui sont séduisantes. Ben ça, c'est l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Les 70 anciens rendaient un culte à ces images sur les murs. Et de la même manière, eh bien, nous, on doit prendre garde à ce grand nombre d'images animées qui sont autour de nous, d'écrans en tout genre, pour que ça ne devienne pas le centre, le cœur de notre vie. Il ne faut pas qu'on leur rende un culte, mais qu'au contraire, on privilégie ce qui est écrit. Il faut aimer ce qui est écrit. La parole de Dieu ou les choses qui ont de la valeur. Dieu veut parler à notre intelligence, non pas par l'image, mais par la parole écrite. Et peut-être le cinéma, c'est intéressant, c'est vrai, hein. J'aime bien aussi regarder un film. Mais Dieu a voulu que l'église soit pas une salle de spectacle avec un show, avec des lumières, avec voilà, qui titille nos sens, mais une exposition de la parole de Dieu. Simplement ça, une exposition des Écritures. Dieu parle comme cela, il a choisi que ce soit comme cela. Verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, cette fois on sort de l'enceinte du temple et nous sommes à l'extérieur devant la porte nord. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes assises en train de pleurer Tammuz. Donc c'était un dieu des Phéniciens. Apparemment le dieu de la moisson, mais il y a un mythe sur Tammuz, il aurait été un beau jeune homme, aimé de Vénus, et malheureusement il aurait été tué sur les hauteurs. Et la mythologie l'a fait revivre, et en fait il semblerait que de là vient l'idée des moissons, voilà, enfin des saisons, ça vient et ça revient. Et ce qu'on peut relever ici, c'est la tristesse et l'amour pour ce Dieu qui n'est plus. Il y a de la tristesse et il y a de l'amour finalement. Et c'est vraiment ça dans le cœur idolâtre. Ça finit par être de l'amour. Hein. On aime ces choses. Et Dieu dit, c'est une abomination. Une abomination. Dieu a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est lui qui doit être au centre, au cœur. C'est lui qui doit avoir tout notre amour. Et pas ces images, pas ces choses à côté. Et quand on aime Dieu de tout son cœur, alors après, ben, le reste prend sa bonne place. Après, bien, on aime les gens autour de nous. Puis après, ben, on aime le reste, le travail, les activités, les loisirs, les objets. Mais c'est à la périphérie. Dieu au centre. Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. La suite. Et il me conduisit. Alors, j'ai pas noté le verset, ça doit être 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Donc là on retourne dans le parvis intérieur, de nouveau devant l'entrée même du temple, et là Ézéchiel regarde sur le parvis, et donc il y a l'autel, le temple, et là qu'est-ce qu'il voit entre le portique et l'autel? Il voit 25 hommes qui tournent le dos au temple, tournent le dos au temple de l'Éternel et ils ont le visage vers l'Orient. Et ils se prosternent vers le soleil. Alors, on pense, c'est probablement ici les sacrificateurs, des sacrificateurs. Pourquoi? Parce que ils sont entre le portique et l'autel, donc ils sont vraiment plus près, ils sont en train d'officier, on va dire. Hein. Et le nombre 25, c'est aussi un nombre significatif parce qu'il y avait 24 classes de sacrificateurs. 24 classes plus le souverain sacrificateur, on arrive à 25. Donc, est-ce que c'est ça? C'est probable. Et qu'est-ce qui se passe? Ils tournent le dos au temple. Ils ne servent plus le Seigneur. Certes, ils sont toujours dans le temple. Ils ont toujours les vêtements. Ils ont tout, toute la tenue sacerdotale. Mais ils ont tourné le dos à Dieu. Au lieu de cela, ils sont tournés vers l'Orient, tournés vers le soleil. Et l'Orient, c'est le symbole, encore une fois, du paganisme. Et les voilà, ils sont en train de se prosterner devant le soleil. L'Épître aux Romains dit encore, « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature ou la création au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Et là, ils sont en train d'adorer, de servir, ils sont tournés vers le soleil. La création au lieu du Créateur. Dans le fait de se prosterner vers l'Orient, je trouve qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à notre société actuelle, qui se prosterne vers l'Orient depuis maintenant plusieurs décennies. Il y a comme un engouement pour toute cette spiritualité orientale, tous ces bouddhas en tout genre, ces méditations, ces exercices pour revitaliser son corps avec le flux des énergies positives ou je ne sais quoi. Hein. On est tourné vers l'Orient. Les Occidentaux se prosternent à leur manière vers l'Orient. Entre parenthèses, par rapport aux actualités, c'est pas l'Orient qui peut nous protéger des dangers et des folies de l'islamisme radical. C'est Dieu seul. Dieu seul. Mais le problème, c'est que Dieu, on l'a mis dehors. Hein? On veut pas le lire. On veut de l'image animée. Mais on ne veut pas de la parole de Dieu. On idolâtre la technologie, l'internet, l'information, la connaissance. Il y a quelqu'un dans le collège de ma fille qui disait que moi je peux pas vivre sans internet. Hein. Alors si les adultes disent ça aux élèves, qu'est-ce que seront les élèves dans 10 ans ou dans 15 ans? Internet devient la vie, quoi. Internet devient la vie. Alors qu'est-ce qui va se passer pour Jérusalem suite à tout ce chapitre? Ézéchiel va avoir une vision du jugement qui vient sur la ville de Jérusalem et sur le temple. À cause de tous les crimes, toutes les infidélités, toutes les abominations, la gloire de Dieu va s'éloigner du temple. Regardez, chapitre 10, verset 4. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. On se souvient que Salomon avait bâti ce temple. Dieu est descendu pour y faire sa demeure. Et la présence de Dieu et la gloire de Dieu étaient là pour exaucer les enfants d'Israël. Mais ici, la gloire de l'Éternel commence à s'éloigner petit à petit. Elle se dirige sur le seuil de la maison. Ézéchiel 10, versets 18 à 19. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Donc la gloire de l'Éternel s'éloigne encore, un peu plus loin, en direction de la sortie, la porte de sortie. Ézéchiel 11, versets 22 à 23. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Qu'est-ce que c'est cette montagne à l'orient de la ville? En fait, c'est le mont des Oliviers. Vous avez peut-être en tête cette image de cette vallée avec cette porte qui est fermée aujourd'hui. Elle est murée. C'est curieux, hein? Parce qu'un jour, elle laissera passer Jésus-Christ, de nouveau quand il reviendra. Mais là, il y a cette vallée, il y a le mont des Oliviers. Et Dieu leur a retiré sa bénédiction, sa grâce et ses bienfaits. La gloire est en train de partir. Ce n'est pas un abandon qui est définitif, on le sait. Plus tard, ils vont revenir avec Esdras et Néhémie. Il va encore y avoir des jours de joie et de fidélité. Mais ici, c'est la gloire du Dieu d'Israël qui quitte, qui s'en va. Elle quitte son peuple. Quand elle va revenir? Quand est-ce qu'elle va revenir? Elle reviendra lorsque le Fils de Dieu reviendra. Mais pour la deuxième venue, sa seconde venue. Et il est intéressant de voir que lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, donc pour sa première venue, le Fils glorieux a quitté Israël, où? Mais de la montagne des Oliviers. C'est de là qu'il est monté. Et où va-t-il revenir? À la montagne des Oliviers. Il va revenir de la même manière. Il est dit, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Mais quand il reviendra, eh bien c'est là où on va entrer dans le millénium. Ça va être une ère de paix pendant 1000 ans. Ça va être le retour de Jésus-Christ, un retour glorieux. Et là, il y aura de nouveau un temple qui sera un temple purifié, un temple sanctifié. Il n'y aura plus d'abomination. Et Ézéchiel a une vision de ce temple. Et regardez ce qu'il dit. Très intéressant. Ézéchiel 43, on arrive à la fin du livre, et versets 1 à 5. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient, face au mont des Oliviers. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Elle vient du mont des Oliviers. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar. C'est-à-dire quand il a eu cette vision de la gloire qui partait. C'est la même vision, mais la gloire est en train de revenir. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. C'est le retour. Et ici, et seulement ici, au retour de Jésus-Christ, eh bien la gloire de l'Éternel sera de retour en Israël. La gloire de Dieu s'est éloignée. Sa présence s'est éloignée. Et Dieu ne reviendra pour bénir, mais vraiment bénir, et faire du bien à Israël qu'au millénium. C'est-à-dire quand il y aura une repentance nationale, que tout le monde, tous les cœurs des Juifs qui resteront après Armageddon, seront dans les larmes, qu'ils reconnaîtront leur Messie, alors là, eh bien, la gloire va revenir. Alors pour nous, enfants de Dieu, pour terminer, l'Esprit de Dieu ne nous quittera pas si nous l'avons reçu. Hein. Tout à l'heure, on l'avait illustré avec la main de Dieu. Hein. Si nous sommes dans sa main, on y reste. L'Esprit de Dieu est en nous, il ne nous quittera jamais. Mais on peut l'attrister. On peut l'attrister, on peut l'éteindre. Et c'est certainement ce qui peut arriver si on tolère des idoles dans ce qui est le temple de Dieu actuel, c'est-à-dire notre cœur. Si on laisse des idoles, alors on va l'attrister. Si les images comptent plus que le Seigneur, plus que l'Écriture, plus que la parole de Dieu, c'est sûr, hein, on verra de moins en moins sa gloire dans nos vies. Si on tourne carrément le dos au Seigneur pour nous tourner vers des choses qui sont vaines, ben on ressentira de moins en moins sa présence. Quoi qu'il est là, il s'éloignera dans notre cœur, hein, de fait. Et j'aimerais terminer avec le dernier verset d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 48, verset 35. La deuxième partie, il dit « Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». L'Éternel est ici. Ça va être dans le millénium. Hein. Mais pour nous, bah c'est maintenant. Oui, l'Éternel est ici. Oui, l'Éternel est dans notre cœur. Il est dans votre cœur, si vous l'avez accepté. Il est en vous. Esprit de Dieu avec lequel on cohabite, esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de pureté, de droiture, d'honnêteté. L'Éternel est ici. Que nous puissions, comme dit Paul, sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur.